Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Vulga Toi-même, le podcast où l'on part à la rencontre de celles et ceux qui font la vulgarisation sur Internet. Pour ce premier épisode, j'ai eu le plaisir de discuter avec Ronan Le Toqueux, plus connu sous le nom de Real Myope. Après avoir été devant la caméra pour des chroniques sur le site jeuxvideo.com, il est passé désormais derrière et est producteur audiovisuel pour la vulgarisation web. Dans cet entretien, on y parle de son parcours, de son métier et de deux projets qui montrent les différentes facettes de cette profession bien particulière. Chroma et Le Vortex, la première chaîne YouTube financée par Arte. Je vous souhaite une très bonne écoute.
Voyons ce qu'elle a dans le ventre.
J'étais un passionné de science avant tout.
Si on dit des choses qui ne sont pas conformes aux lois physiques, on risque de dire des choses qui n'auront jamais de réalité.
Déjà, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ton parcours, comment t'as fait pour en arriver là dans ce que tu souhaites aborder, hein.
Ouais, parce que ça fait une longue histoire, vu que ça va faire bientôt... je crois que ça va faire 9 ans que j'ai la société et qui donc, n'est productrice que de contenu sur le web. On a commencé en travaillant avec jeuxvideo.com. On a vulgarisé une pratique sportive de jeux vidéo qui s'appelle le speedrun.
Bonjour.
Bonjour et bienvenue dans Speed Game. Alors cette semaine, une fois n'est pas coutume, nous allons faire Mario World, mais une fois de plus, pas vraiment Mario World. On en a parlé beaucoup pendant quelques années, près de 5 ans. Et puis, ça m'a un peu formé à la production du visuel, ça m'a un peu formé aussi au web, à ses spécificités, comme on dit souvent, c'est un an sur le web, c'est 10 ans d'expérience. Donc on doit avoir pas loin de 80 ans d'expérience dans ma société, mais c'est vrai que c'est particulièrement changeant. On a vu vraiment le milieu évoluer très très vite entre les plateformes et puis les sources de financement. Voilà, tout a beaucoup évolué en l'espace de quelques années. Donc on a vu tout ça. Et puis donc à la fin de cette aventure avec jeuxvideo.com, où je m'étais un petit peu fait les dents à la production, je me suis lancé, mais dans un autre domaine que j'adore aussi, qui était la science, et de mettre à profit en fait mes connaissances et mes capacités pour d'autres youtubeurs qui étaient plus dans les sciences et dans la vulgarisation culturelle que dans jeux vidéo. Et c'est comme ça que j'ai commencé à produire bien du Linguisticae, du Nota Bene, et puis plus récemment Stardust, et puis prochainement un créatif. La petite famille s'agrandit au fur et à mesure.
Parce que tout début, parce que moi je suis votre boulot depuis le tout début de JVC, et à l'époque, c'était pas encore les productions NES, ça s'appelait encore le NES Blog, il me semble.
Bah, en fait, le NES Blog, c'était juste à côté, mais c'était toujours des productions NES, si tu veux. C'était juste que le NES Blog était une entité à côté qui avait un peu le même nom, mais en fait, ça n'a pas d'entité réelle, le NES Blog. C'est pas une association, c'est pas une fédération, c'était juste un site avec des gens qui aimaient bien leur contenu et qui le partageaient. Tous les gens qui étaient sur NESblog n'étaient pas forcément chez NES et inversement. C'était plus par affinité, par copinage que par réalité économique, par exemple.
Le NESblog, c'était aussi une des premières grosses entités, on va dire, pour la culture. Bon, tout d'abord jeux vidéo, mais qui après s'est ouverte un peu plus à d'autres choses. C'était la première, j'ai l'impression, pour le premier collectif, premier site qui partageait la culture par le web. Mais c'était quoi le contexte de création? C'était avec JVC ou c'était déjà un petit peu avant ou...
Oh, ça a dû être créé légèrement avant. Ça a dû exister un petit peu avant. L'idée, à la base, c'était vraiment de faire un blog de gens qui s'aimaient bien et qui avaient envie de faire connaître leurs travaux. C'était légèrement avant, mais c'est vrai qu'avec jeuxvideo.com, quand on a été un peu plus connu grâce à l'exposition qu'ils nous ont donnée, effectivement, c'est là où on a montré aussi, je pense qu'on était vraiment dans les pionniers là-dessus, qu'on pouvait être un peu dans la vulgarisation et en vivre, même si c'est un bien grand mot de dire qu'on en vivait. Mais on avait montré qu'on pouvait être des professionnels, en tout cas, de ce secteur-là, et que c'était vraiment très, très novateur à l'époque. Hein. On était vraiment au tout début de cette aventure-là, même si nous, on était déjà sur Internet depuis plus de 2 ans, en fait, avec plus de... Ouais, même 3 ans, je pense. On était déjà avec notre première émission avec CDV. On était déjà sur Internet à faire ça. En fait, c'est juste ça. C'est qu'il y avait un moment de professionnalisation, et c'est là où la société a dû être créée, parce qu'il fallait bien pouvoir faire des factures. Et là, il fallait réfléchir à comment on allait faire.
Donc en fait, là, si j'ai bien compris, en fait, NES, c'est né quasiment au tout début, sauf que c'était pas forcément mis en avant le nom NES. Ça l'est de plus en plus. Avant, pas tant que ça, j'ai l'impression.
Non, non, parce que c'est pas non plus un... C'est pas une marque, c'est pas... On était voilà, un groupement de potes et ceux qui voulaient adhérer le faisaient. Après, bon, voilà, nous, il y avait des micros, des genres de commissions. On décidait de qui pouvait rentrer ou non parce qu'il fallait que ça reste voilà, dans un genre de cahier des charges qu'on s'était donné. Mais moi, je n'étais pas le seul décisionnaire du tout. Et moi, j'ai plus ou moins arrêté de gérer le NESBlog maintenant il y a 2-3 ans en fait. Pour me consacrer à la société et à la vulgarisation scientifique pour ça, que j'ai laissé en autonomie voilà, depuis.
Bah justement, par rapport à la vulgarisation, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir t'immiscer davantage dans la vulgarisation finalement? Qu'est-ce qui a été, pas forcément l'élément déclencheur, mais peut-être le déclic?
Je sais pas trop. Je pense que c'est parce que c'était le contenu que je regardais le plus, tout simplement. Donc naturellement je me suis dit tiens c'est marrant, ce que je regarde le plus c'est plus spécialement de jeux vidéo. J'ai quand même beaucoup parlé de jeux vidéo dans ma vie et je pense que j'avais fait peut-être un petit peu le tour de tout ça, et puis en voyant émerger toutes ces chaînes de vulgarisation, je me suis dit qu'il y a forcément un truc à faire, à créer en fait et à assister, parce qu'il y a quelque chose à pousser en fait, tout simplement. Donc voilà, mais en fait ça s'est fait vraiment très naturellement. Il n'y a pas un genre de plan en se disant oui alors maintenant ça va être la tendance machin les trucs, non, c'était juste tiens eux ça m'a l'air plutôt intéressant, je trouve que c'est ça a de l'avenir, et puis même je trouve que personnellement en tant que producteur c'était le genre de contenu que j'avais envie d'essayer de pousser quoi, pour je pense que c'est mieux de faire ça que plein d'autres trucs.
Vu que tu viens de reparler de ton métier, en fait la question qui peut paraître un peu bizarre mais je pense importante, c'est en quoi consiste le métier de producteur quand on est sur le web, d'autant plus quand on est axé sur la vulgarisation?
En fait, c'est un peu le même métier que d'habitude. Hein. C'est-à-dire que la différence, en fait, on va dire qu'elle est d'ordre, je ne sais pas si on peut dire hiérarchique, mais en gros, les YouTubeurs, la grande force, c'est qu'ils sont indépendants. C'est-à-dire qu'ils ont leur chaîne, c'est pas mon contenu. C'est pour ça que je dis que c'est une histoire de hiérarchie. C'est-à-dire que c'est leur contenu, moi, je ne fais que le gérer pour eux. Je fais que faire en sorte de négocier au mieux les contrats qu'ils pourraient avoir. Je fais en sorte de payer les gens avec qui ils travaillent de la manière la plus légale possible. Je fais en sorte de les rémunérer le plus justement possible en fonction de leurs revenus. Donc je suis un mélange d'administrateurs, de conseillers, d'agents, de comptables, en fonction des chaînes que je gère. Voilà, donc c'est plus de l'administratif. En fait, il y a beaucoup d'administratif, c'est pour ça que c'est beaucoup de soutien. En fait. Après, on peut avoir du conseil à la fois sur le matériel, sur des conseils artistiques. Mais à la différence de la production audiovisuelle plus traditionnelle, c'est que c'est le producteur qui a tout pouvoir, vu que c'est son argent. Et donc, si jamais il y a un truc qui ne lui plaît pas chez un auteur, eh ben, il peut complètement changer d'auteur, c'est son émission. Là, on est vraiment dans un rapport un petit peu différent qui est lié tout simplement à l'utilisation d'Internet. Ce n'est pas exactement le cas. Si vous voulez, le mélange justement un petit peu des deux savoirs, eh ben, c'est le Vortex. Parce que lui a cette capacité d'être une émission vraiment produite par une société de production, la mienne et Arte en particulier. Et donc là, on est vraiment dans ce rapport-là, mais c'est assez rare. Et c'est très transmédia, en fait, vraiment, véritablement transmédia entre la télévision et Internet. Mais c'est un projet spécifique, c'est pas la plupart des chaînes ne fonctionnent pas comme celle-là, quoi.
D'accord. Toi, en tant que producteur, on doit souvent essayer de te contacter pour différents projets. Qu'est-ce qui te fait te dire, tiens, ce projet, j'ai envie de le produire? Qu'est-ce qui te donne envie de mettre ta patte et te dire, je vais investir moi et ma société dans ce projet?
En général, en fait, c'est tout bête, hein, mais... J'attends déjà que la personne soit suffisamment sûre de ce qu'elle veut faire. En général aussi, ben, j'aime pas dire ça, j'aimerais pas dire qu'il y a un nombre d'abonnés, mais ça montre quand même une envie de faire quelque chose et de se professionnaliser et de vouloir. Parce que moi, je peux pas arriver avant que tu veuilles te professionnaliser. Je suis obligé d'arriver au moment où tu te dis ah, j'aimerais bien devenir professionnel. Comment est-ce que j'arrête mon activité actuelle pour devenir vulgarisateur à plein temps? C'est là où moi j'interviens. Avant, je ne peux pas, en fait, parce que tu ne vas pas gagner suffisamment d'argent, je ne vais pas avoir suffisamment de travail pour toi, je ne vais pas trouver les partenaires avec lesquels tu vas pouvoir travailler, c'est bête, mais il y a vraiment des paliers à passer pour arriver jusque la production professionnelle. Une fois qu'on arrive à peu près à ces paliers, alors je n'ai pas d'idée exactement de quand ces paliers sont, hein, c'est vraiment une fonction d'envie, on réfléchit et puis on détermine un plan ensemble de comment est-ce qu'on va développer la chaîne. Quand est-ce que tu vas complètement arrêter ton activité? Quand est-ce que tu vas te mettre à plein temps sur la chaîne? Quel type de vidéo tu vas faire? Est-ce qu'on va demander une aide au CNC, par exemple? Est-ce que tu as envie de travailler avec tel type de partenaire? Est-ce que tu as envie de faire tel type de contenu? Est-ce que, puis rencontrer les gens après, c'est-à-dire, tiens, est-ce que tu connais machin? Est-ce que tu connais truc? Je pense que ça pourrait t'intéresser. Voilà, après, c'est cette démarche-là qui arrive par la suite. Mais ce que je dis souvent, c'est qu'il n'y a pas de recette, en fait. C'est toujours individuel. Il n'y a pas une seule solution. Il y en a certains qui vont beaucoup utiliser la société pour produire et pour profiter en fait de ce qu'elle apporte. Et d'autres qui vont vraiment juste faire un petit peu du portage. C'est-à-dire que c'est vraiment, ils utilisent un truc parce qu'il faut que ce soit légal. Pas forcément pour profiter, on va dire, de notre matériel ou même de notre expertise. Ils savent très bien faire des vidéos, ils n'ont pas besoin de nous pour ça. Néanmoins, ils n'ont pas envie de se prendre la tête avec comment on paye des intermittents du spectacle ou de ce genre de choses. Ben, nous, on arrive à ce moment-là pour assister les créateurs. Et puis, il y en a qui sont vraiment au sein de NES salariés. Mais il y en a d'autres avec qui je travaille de temps en temps, mais qui ne sont pas directement liés à ma société. C'est juste des collaborateurs, voilà, occasionnels, et ça se passe très très bien. Voilà, il y a plein de solutions pour plein de problèmes très différents. C'est un peu le gros truc du web en général, c'est qu'il faut être flexible et voir un petit peu ce qui... Personne n'a les mêmes attentes, en fait. Ça dépend vraiment aussi de ses propres capacités en tant qu'auteur, parce que sur YouTube, la plupart des gens sont des auteurs, mais ils sont aussi des techniciens. C'est-à-dire qu'ils écrivent, mais ils montent, ils tournent, ils font le son, des fois même ils font la musique, ils sont community manager, voilà, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'éléments. Et donc on se demande, bah, où est-ce que tu as besoin le plus d'aide? Peut-être que toi, tu as besoin plus qu'on t'aide à écrire parce que, en fait, tu ne te sens pas très à l'aise, mais tu as un super monteur. Ou alors, tu penses que tu es très nul techniquement et qu'il te faudrait du nouveau matos et puis peut-être faire 2-3 tutos d'éclairage. Voilà, ça c'est vraiment, ça change à chaque fois, quoi. Il n'y a pas de règle.
Mais est-ce que cette flexibilité, finalement, elle pose pas forcément problème? Enfin, ça doit sans doute créer des difficultés, en fait, vu dans ton rôle, vu que t'es vraiment celui qui est un petit peu est le point d'attache à plein de milieux différents. Je suppose que tu dois quand même avoir un certain nombre de difficultés, vu que c'est le web, vu que c'est encore une économie qui peut être encore un peu fragile, malgré que ça se professionnalise de mieux en mieux et de plus en plus facilement. Sans doute, tu dois avoir des difficultés.
Je trouve pas... En fait, je gère aussi peu de gens. Hein. En vrai, il y a ça qui est important aussi. Il y a des difficultés, mais je veux dire, il y a pas de, je connais pas de prod en général qui a pas de difficultés. C'est pas lié spécifiquement au web. Il y a toujours dans la prod des problèmes qui vont s'enchaîner, des plannings, des égos, je sais pas. Il y a toujours plein de trucs quoi qui vont poser problème. Donc on essaye de rendre ça le plus simple possible, mais effectivement ça reste vraiment du cas par cas. Mais moi c'est un peu ce que j'aime bien, c'est-à-dire que je suis là pour régler les problèmes des autres globalement. C'est un peu mon taf. C'est pour ça que je suis assez investi dans la guilde des vidéastes pour créer justement une entité, une vraie entité, une vraie fédération de vidéastes qui puisse défendre ses intérêts et partager ses connaissances. Et ça, c'est vraiment très important. Donc voilà, ça, c'est les grands éléments en fait qui font. Mais ouais, j'ai du mal à dire que... Je pense pas que c'est un handicap. Moi, j'aime bien. En plus, ça change un peu tous les jours. Tu sais jamais ce que tu vas faire en te levant le matin, quoi. Bon, des fois, c'est un peu désagréable parce que tu dois faire face à un genre de shitstorm nul, de machin, voilà, où il y a des problèmes sur n'importe quoi. Hein. Vraiment, ça peut être des vidéos, les tournages, des situations X ou Y, quoi. Mais bon, voilà, au moins, je sais jamais ce que je vais faire vraiment dans ma journée.
Je vois. Là, avec toi, j'aimerais parler de deux productions qui ont été importantes ou qui sont importantes. La première, je pense que c'est celle que le plus de monde connaît. Je pense que c'est une des plus réputées de NES. Je voudrais parler de Chroma.
Salut à tous, c'est Karim de Bache. Hey, vous savez ce que j'aime?
Les pulls moches.
Le cinéma. Le cinéma est un art du spectacle reposant sur un procédé permettant de procurer l'illusion du mouvement par la projection à cadence suffisamment élevée de vues fixes enregistrées en continuité sur un film. C'est super, non? Et à partir de ce simple mais ingénieux procédé, s'est créée une galaxie de films.
Alors Chroma, typiquement, c'est le genre de projet que j'ai simplement accompagné, on va dire. J'étais pas, justement, j'avais aucun contrôle. Je ne savais, j'étais des fois, j'avais les vidéos après le public. En fait, là, on tombe dans un cas avec Chroma où Karim, Gilles et Jérém, c'est déjà des gens issus du milieu professionnel. Ils étaient déjà soit dans le cinéma, soit dans l'audiovisuel. Donc, ils connaissent très bien le milieu. Ils savent comment faire de l'audiovisuel. C'est pas le souci. Ils savent monter, ils savent écrire, ils savent faire des effets spéciaux. Voilà. Par contre, toute la partie gestion, c'est pas ça. Donc moi, je suis vraiment arrivé en tant que gestionnaire à gérer les budgets, à regarder qui fait quoi à quel endroit, à aller chercher éventuellement des financements complémentaires. Mais bon, ça, ça a été très, très compliqué, surtout à l'époque. On n'avait pas d'aide du CNC quand ils ont lancé Chroma. Puis c'était un financement participatif, ce qui foutait tout un bordel sans nom d'un point de vue légal, parce qu'on ne sait pas combien on devait de TVA. Enfin bref, il y a eu beaucoup d'aspects très administratifs au casse-couille, comme je les appelle. Il a fallu aussi les salariés, faire en sorte qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions. Voilà, après acheter tout le matériel, faire tout l'aspect, on va dire, technique de la production en elle-même. Mais j'avais vraiment aucun contrôle de prod, en fait. Je n'étais pas au tournage. Je suis passé 2-3 fois pour les aider, mais vraiment de manière sporadique, et parce que j'étais par là et que c'était marrant, quoi. Puis c'est des copains, donc voilà. Je dépannais des potes à la base, hein. C'était vraiment, vraiment l'idée, quoi. Parce que j'avais produit pour jeuxvideo.com Crost avec Karim, c'est comme ça qu'on s'était rencontrés. Mais voilà, c'était vraiment dans cette optique-là. Donc eux, ils sont typiquement le genre de projet qui ont juste besoin, on va dire, d'une gestion à la fois légale et administrative, mais qui est indispensable. On ne peut pas faire sans, surtout quand il y avait plus de 200 000 euros à gérer. Ça peut devenir très vite dangereux si c'est pas anticipé, quoi.
Ah, c'est intéressant le fait un petit peu que... Là, pour le coup, tu étais vraiment gestionnaire. Je vois qu'il y a un peu vraiment une vraie double facette de ton métier. Vraiment, donc gestionnaire très administratif. Et d'un autre côté, quand même, qui reste un pied dans la création, quand même, dans d'autres projets.
C'est vraiment deux pans de la prod. Hein. Il y a vraiment le fait d'être intégré à la production vraiment en tant que tel et limite moteur du projet. Et puis d'avoir Chroma, effectivement, qui est quasiment autonome, mais qui est passionnant quand même à faire aussi, parce qu'il y avait plein de questions qui n'avaient jamais été posées. Moi, ça m'amuse un petit peu. C'est comme un problème. C'est une escape game, en fait, une prod, quoi. Tu vois, t'es obligé de trouver des solutions complètement incroyables des fois, parce qu'en fait, tu t'aperçois que personne n'a les réponses. Ça, c'est le truc sûrement le plus frustrant. Surtout avec les impôts. Ça, c'est quand tu gères des. Pour te donner une anecdote un peu rigolote, le jour où on a reçu une partie des sous de Chroma sur le compte bancaire, j'ai reçu un appel de ma banquière qui m'a dit « Oui, je suis obligé de vous demander d'où l'origine de ce virement parce que ça me paraît trop bizarre, on pense que vous êtes un terroriste. » Donc, alors je lui ai dit « Oui, c'est quand même bizarre que je sois un terroriste vu que c'est la branche de cette même banque qui faisait le virement. » C'était d'une branche à l'autre, quoi. Donc je leur disais « C'est quand même un peu bizarre. » Il me fait « Oui, ça me paraît surprenant, mais dès qu'il y a des montants de plus de 50 000 euros qui sont inhabituels, on doit avoir une justification pour l'État, comme quoi vous n'êtes pas un terroriste. » Je fais « Bah écoutez, voilà, regardez le site, voilà, ça s'appelle Ulule, vous pouvez aller là-dessus, et puis ceux qui nous ont fait le virement, quoi. » Donc voilà, c'était un petit peu marrant, mais c'est le genre de situation auquel je ne m'attendais pas au début, on va dire.
Tu m'étonnes. Bah là, je pense que maintenant, tu dois être un peu plus rodé quand tu as des vidéastes qui peuvent être touchés avec le CNC ou quoi.
Bah surtout, c'est que ça, c'était juste après l'arrêt de Speed Game. C'est-à-dire que j'ai vraiment enchaîné très vite entre Speed Game et Chroma, quoi.
Le deuxième projet dont j'aimerais parler, donc, c'est celui dont on parlait tout à l'heure, c'est le Vortex.
Je sais pas si vous avez eu la chance d'en discuter avec vos grands-parents.
Bon, d'abord, il faut dire une chose, quitte à briser le mythe.
Si vous avez l'impression que ce que vous regardez en ce moment représente Internet...
Tout semble toujours simple en surface.
Parce que c'est un projet quand même qui est un peu sorti de nulle part quand même, personne s'y attendait. Et de se dire que, bah, comme tu disais, c'est la première rencontre transmédia, on va dire, de Arte et YouTube pour une production qui n'est diffusée que sur YouTube et pas à la télévision. Est-ce que tu peux un peu nous raconter toute la pré-production? Comment, alors déjà, d'où vient ce projet? Et comment petit à petit les négociations avec Arte ont pu se faire jusqu'à donner le programme qu'on connaît aujourd'hui?
Alors le tout début du projet, en fait, c'est Léo Grasset de Arte Biologie qui vient me voir. On était déjà en contact pour plein de petits trucs auparavant. Et qui me dit « Bon, ben voilà, j'ai rencontré les gens d'Arte, je suis en train de travailler avec eux, ils aimeraient, on aimerait faire une chaîne de vulgarisation où les gens, on fait venir différents types de vulgarisateurs, on leur fait faire des trucs, voilà. » Mais c'était très flou, hein, on ne savait même pas comment ce serait techniquement fait, on ne savait pas les durées, on ne savait pas le nombre de personnes. Mais voilà, est-ce que ça te dit, toi, que je te mette dans la boucle et que je te propose comme boîte de prod, sachant que tu n'es pas le seul, voilà. J'ai fait différentes demandes à différentes boîtes de prod s'ils étaient intéressés de produire ça. Et je lui dis, bah, écoute, moi, je te prépare un dossier sur ce qu'on fait, nous. Et puis, si t'es chaud, tu me dis. Et puis, moi, j'irai rencontrer Arte pour défendre le bout de gras du truc, quoi. Alors, je ne sais plus exactement quelle boîte de prod il a contacté. Je pense qu'il a contacté des mélanges de boîtes de prod de télé, de web. Je ne sais plus exactement tout ce qu'il a fait. Mais bon, en tout cas, il faut croire que mon dossier lui a bien plu parce que c'est moi qui l'a retenu pour Arte et à qui il a dit c'est avec NES que j'ai envie de produire le Vortex. Qui ne s'appelait pas le Vortex d'ailleurs à l'époque, qui s'appelait Vulgarté parce qu'on n'avait aucune idée de comment on l'appellerait. Et donc on arrive chez Arte et puis on discute un petit peu, on essaie de planifier un peu le truc, de comment ça va fonctionner. Et puis, on n'a pas vraiment d'idée en tête de ce qui doit être fait. Et en fait, avec Arte, comment ça fonctionne ? Eh bien, on fait un pilote. On fait un pilote parce qu'on n'investit pas 24 épisodes d'une série comme ça, sans faire en fait un genre de pré-test. On fait un test et on regarde si si ça marche, en fait, tout simplement. Parce que ça coûte cher, mais ça coûte moins cher que d'en faire 24 qui ne soient pas bons. Et on décide de mettre, bien sûr, Léo dedans, parce que c'est son idée. Et comme ça, il va pouvoir aussi s'exprimer à travers et montrer un petit peu le ton qu'il souhaiterait pour l'émission. Et on a tourné ça il y a un petit bout de temps maintenant. Ça va bientôt faire 2 ans, je pense. Ouais, ça fait un petit bout de temps qu'on a fait ce premier pilote, parce que c'est là qu'il y a une aventure. C'est qu'on fait un premier pilote, toujours donc avec cette idée de transdisciplinarité, donc avec Léo et Clotilde de Passé Sauvage, parce qu'ils avaient envie d'être tous les deux dans cette première partie. Et en fait, c'est pas ouf. Et en fait, on s'est planté dans la forme, je pense, parce que... Alors, c'était assez proche de ce qu'on avait fait quand même, mais on avait voulu rendre ça trop propre, trop beau. Mmh. Et donc, ça faisait trop télé. Donc, effectivement, quand j'ai reçu ce genre de commentaires, j'ai fait « Quoi ?» Ok. Et puis, il y avait des petits problèmes de présentation, de collab, c'était moins naturel en fait, c'était plus strict, on va dire, comme forme. Et puis en fin de compte, c'est vrai que c'était pas ouf, mais bon voilà. Donc Arte nous dit, bah écoutez, nous on peut pas ça, non, mais refaites un pilote avec le même script, réajusté. Donc on a refait un pilote et puis on a affiné pas mal de choses pour ressembler en fait aux épisodes que l'on a actuellement. Même si ça s'affine toujours un petit peu, on est toujours en train de réfléchir, mais globalement le pilote que l'on a eu, qui a été diffusé sur la chaîne de Léo, ressemble beaucoup aux autres épisodes. Voilà, il nous donne vraiment, c'est un maître étalon, c'est un peu l'idée du pilote de toute façon, sur les durées, les collabs, l'ambiance, c'est ça qui était difficile. Et au début, on ne savait vraiment pas ce qu'on allait faire, parce qu'à la base, ça ne devait même pas être tourné comme ça. À la base, ça devait être, je pensais à un moment, tourner sur fond vert, faire vraiment plus genre un truc débile, les Avengers de la science. On ne savait pas du tout. En fait, on avait juste envie de faire une chaîne collaborative avec des trucs transdisciplinaires, mais on n'avait aucune idée de comment faire. Et puis, je dis, non, mais en fait, moi, j'ai vécu 10 ans en coloc. Je me dis, mais en fait, c'est ça qu'il faut qu'on fasse, quoi. C'est vraiment une coloc. Il ne faut pas qu'on essaye de faker un truc. Il faut qu'on rende ça normal, même si c'est complètement débile. Parce que, en vrai, personne n'imagine qu'ils peuvent aller vivre ensemble pendant près de 6 mois, 1 an pour une émission YouTube. Enfin, on fait croire que c'est une vraie coloc, mais c'est une coloc de quelques jours. C'est une coloc d'une dizaine de jours. Ce n'est pas une coloc beaucoup plus longue que ça. Mais par contre, c'est très préparé. Mais voilà, on essaye de se baser là-dessus. Et puis, je me dis, bah, où est-ce que je tourne ? Et ben, j'ai décidé de tourner directement chez moi. Ce qui a des avantages et des inconvénients. Mais vu que j'avais une maison qui me permettait de faire des tournages, on a commencé à réfléchir avec Benjamin Sénès, qui est le monteur et le réalisateur de l'émission, sur justement bah, les angles, comment on pourrait faire, comment on pourrait éclairer tout ça. Et voilà, ça a démarré comme ça. Le deuxième pilote est celui que vous avez pu voir, qui a bien marché et qui a réussi à convaincre Arte France, ce qui n'est pas évident, et surtout Arte donc Strasbourg, c'est le GIEI là, de Strasbourg, donc c'est la France et l'Allemagne. Parce que normalement, et le Vortex pour l'instant est un cas très particulier, c'est qu'il n'existe pas l'équivalent en allemand. Parce qu'on est un peu expérimental et qu'on attend que les Allemands fassent leur Vortex de leur côté, en vrai. Mais voilà, ça a démarré comme ça.
Et comment, en fait, dans la production, Arte s'est immiscé ? Parce que je suppose quand même que, bah, vu que c'est un des principaux financeurs et que c'est un peu une prise de risque pour eux, vu qu'ils investissent pour la première fois sur une chaîne YouTube, pas une rediffusion, comme c'était pour « Tu mourras moins bête », par exemple. Est-ce qu'il y a eu des contraintes quand même ? Parce que tu parlais des idées de format, est-ce que c'est eux qui ont proposé des choses ? Comment s'est passée la collaboration en soi ?
Vu qu'il n'y avait pas vraiment d'idées... c'était très flou au début. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment de... Bon, si, on était d'accord pour à peu près une durée de 10 minutes et transdisciplinaire. Voilà, c'était à peu près ça. Et que les youtubeurs mélangent leur domaine de prédilection les uns avec les autres. Et puis, nous, par exemple, on s'est aperçu que ça, c'était une très belle idée, mais que c'était, dans les faits, extrêmement compliqué de faire interagir 4 youtubeurs qui ont 4 domaines de discipline dans toutes les vidéos des autres. C'est-à-dire qu'ils aient toujours quelque chose à dire sur les vidéos des autres. Ça, c'était vraiment compliqué. Des fois, ce n'était pas le cas. Donc, je sais qu'à un moment, nous, on a un peu débattu de est-ce qu'on fait vraiment un truc transdisciplinaire tout le temps ? Des fois, bah, peut-être que la personne a envie de parler d'un truc, mais ce ne sera pas transdisciplinaire. Néanmoins, on fera interagir les autres colocs, mais pas pour dire quelque chose de révolutionnaire sur l'idée qui est en train d'avancer, mais pour faire vivre la coloc, voilà, pour donner un peu de la vie et qu'il y ait des personnages, quoi. Donc voilà, ça, on l'a fait un petit peu, hein, parce qu'on était un petit peu obligé. C'était pas évident. Mais ça, c'est une contrainte d'auteur, en fait. On s'est aperçu de ça, même si ça n'a pas plu à Arte, forcément. Il tenait vraiment à cette idée de transdisciplinarité. On leur a dit, mais c'est trop compliqué, en fait. Vous imaginez, il y a des grands écarts qui vont faire que, et je pense que ça se sent peut-être un petit peu dans certains épisodes de la première partie, justement, c'est un peu pas tiré par les cheveux, mais ça fait grand écart, quoi. Ça fait vraiment, waouh, il faut réussir à rentrer une collab dedans. Donc ça, c'est jamais très confortable. Après, on s'est aperçu que c'était très expérimental, personne ne l'avait fait. Les youtubeurs, c'est des gens qui sont habitués aux collabs, mais aux collabs d'une manière assez différente. C'est-à-dire qu'ils sont autonomes, ils ont leur propre chaîne. En général, tu vas faire soit un caméo dans la vidéo d'un autre, ou tu vas faire ton sujet de ton côté, l'autre de son côté. Et c'est très naturel, parce que c'est parce qu'ils avaient un sujet en commun qu'ils ont décidé de faire une vidéo en même temps. Là, on leur dit... Il va falloir que vous trouviez des sujets qui correspondent. Et ce n'est pas évident quand on demande 3 plus 3 collabs. C'était pas facile. Après, voilà, il y a la production du visuel de la télévision qui a ses contraintes, qui a ses timings. Ça, si, c'est des choses que même moi, j'ai dû apprendre parce que je n'avais jamais travaillé avec la télé. Hein. Ça a été assez compliqué au début de s'ajuster. Mais c'était à la fois de la méconnaissance de l'un, des uns et des autres. Effectivement, je pense un manque de confiance aussi, peut-être des deux. C'est-à-dire que si tu as beaucoup vécu comme moi sur Internet, tu n'es pas forcément une image très reluisante de la télévision. Et la télévision, elle ne comprend pas comment fonctionnent les youtubeurs. Enfin, au début, c'est vraiment très compliqué. Ils ne se rendent pas compte du niveau d'arrache par rapport à ce qu'ils ont d'habitude, de ce que nous, comment on travaille, en fait, quoi. Ce qui fait qu'il y avait des scripts qui n'étaient pas forcément complètement terminés quand on a commencé à tourner. On avait 9 jours de tournage, c'est bon, on aura fini d'écrire à ce moment-là. Sauf que Arte veut lire les scripts avant, alors pour différentes raisons, pour vérifier qu'on ne dise pas de bêtises trop. Alors normalement ça va, parce qu'on a quand même des spécialistes qui sont relus, donc ça a été rarement le cas. Ou tout simplement que ça corresponde bien entre guillemets au cahier des charges, parce qu'ils s'engagent aussi chez eux. Les gens qui nous représentent chez Arte s'engagent auprès d'Arte à faire ce qu'ils ont dit qu'ils feraient. Vous voyez, il y a toute une histoire de hiérarchie dans cette histoire. Et donc, si jamais on leur met la pression, ils nous mettent la pression à nous, et directement, après, on peut mettre la pression aux auteurs. C'est tout un système assez relou, mais bon, voilà, ça a été un peu particulier le premier tournage à cause de ça, parce que justement, on a été un peu sous pression à droite à gauche, et ça a été un peu conflictuel. Je pense que tout le monde a appris à ce moment-là. Je pense que vraiment, il y a eu pas mal de un peu à la dure, mais on a appris à se connaître, et depuis, ça va vachement mieux, parce que justement, on a un peu révisé nos méthodes de travail ici pour rassurer, en fait, Arte. Mais en même temps, ça rassure tout le monde. Ça me rassure moi, parce que je sais que ça correspond à ce que j'ai envie de faire, déjà. Ça rassure aussi les auteurs, parce qu'ils voient que c'est encadré. C'est-à-dire qu'on vient... Et puis, plus il y a d'épisodes qui sortent, plus ils voient à quoi ça doit ressembler aussi. C'est peut-être plus dur quand on avait que le pilote. C'était plus dur quand on était plus flou nous-mêmes, en fait. Maintenant que ça commence à avoir plus de... Je veux dire, au début, il ne faut pas tenter des trucs quand tu ne sais pas déjà bien faire ce que tu devrais savoir faire. C'est un peu ça, en fait. C'est-à-dire que maintenant, j'aurai plus de facilité à prendre des risques dans un épisode du Vortex parce que je sais que je sais faire le reste. Et qu'au pire, je me rabattrai sur cette forme-là si jamais j'y arrive pas. Donc voilà, ça, c'est des choses qui progressent. Après, on a aussi la confiance du CNRS quand même qui est arrivée. Donc ça a été plutôt cool. Après, il y a eu le CNC, mais qui ne nous a pas donné autant que ce qu'on avait demandé. Donc ça nous a mis financièrement un petit peu dans les soucis. Arte a fait des efforts. On arrive à s'en sortir financièrement avec la série. Alors pas du tout, parce que c'est une série quand même assez particulière, vu que bon, certes, il y a de la pub, mais c'est pas du tout, c'est pas spécifiquement pour gagner de l'argent qu'il y a de la pub sur le Vortex, hein, ça ne suffira jamais à payer le Vortex. Néanmoins, c'est vachement bien pour le référencement. Google, il t'aime vachement plus quand tu finances, quand tu mets des pubs devant tes vidéos. Donc moi, j'ai un peu négocié avec eux en disant si, il faut mettre la pub pour ça. Et puis, il n'y a pas de financement participatif, il n'y a pas de truc. C'est une émission du service public, en fait. C'est CNC, CNRS, Arte. Donc voilà, sachez-le, plus Dailymotion, parce que Dailymotion a acheté une semaine d'avance pour les diffusions. Mais bon, c'est compliqué aussi de ce point de vue-là, mais bref. Voilà, l'émission, elle est offerte au public. On ne lui demande rien en échange, à part de la regarder. De commenter, de venir sur le Discord. Et de, voilà. Parce qu'il y avait aussi cette idée-là de créer une... C'était quelque chose d'important pour nous, de créer une communauté. De pas juste faire une émission de télé, en fait, justement. Parce que nous ne sommes pas qu'une émission de télé. On a une chaîne YouTube, on a une communauté. On a envie de vivre comme une chaîne classique, en fait. Et pas de diffuser, faire un replay, en fait. C'est comme si on avait fait un replay d'une émission qui n'était jamais diffusée à la base à la télé, quoi. Donc de garder cet esprit-là. Ça, c'était important aussi. Ça, c'était dans le cadre. Enfin, c'est ce qu'on a mis nous rapidement en balance chez Arte en disant si, il nous faudrait. Je crois qu'ils connaissaient pas Discord quand on leur en a parlé la première fois. On a expliqué que c'est un mélange de Skype et d'un forum, quoi, et que ça permet aux communautés de s'organiser, de réfléchir à la com, de réfléchir à plein de trucs, quoi. Mais maintenant, c'est vraiment beaucoup plus simple, beaucoup plus sain. Et très dans la collaboration, en fait. On écoute les propositions de chacun et souvent, c'est bien amené. Je pense qu'aussi, même nous et Arte, en fait, c'est comme tous les projets, il faut appréhender le projet nous-mêmes, en fait. C'est que nous, on apprend à le faire et eux, ils apprennent à le faire. Et plus on est bon à ça, plus on arrive à faire des trucs cool, quoi.
Parce que du coup, en fait, là, je me posais la question par rapport à la ligne éditoriale, mais là, comme tu disais, a priori, ça va dans le bon sens, on te laisse de plus en plus libre.
La ligne éditoriale, elle est très faible, en fait. Les auteurs, ils font vraiment ce qu'ils veulent. La seule chose, c'est quand nous, on sent que c'est pas bon pour le public. Voilà. On a pu intervenir sur des vidéos. Enfin, des vidéos. C'est bien en amont. Hein. Faut bien comprendre qu'on fait pas réécrire quand on en est à l'écriture, en fait. On fait réécrire, on demande à réfléchir quand on en est à poser les thèmes et les vidéos qu'on va faire. Ça est arrivé qu'il y en ait des gens qui nous disent je veux faire 3 vidéos sur tel sujet et qu'on lui dise ah ben écoute ça va être compliqué parce que je pense que t'as pas assez à dire pour remplir tout ça et puis ça va pas marcher, je préférerais que tu fasses 3 vidéos sur un autre, enfin cette vidéo là tu la gardes, t'en fais une et puis après t'en fais 2 sur 2 autres vidéos sur 2 autres thèmes et voilà, ça c'est le genre de choses qu'on a un peu imposé mais qui en fin de compte était juste et ça s'est très bien passé par la suite. Je pense que c'était la bonne décision. En y réfléchissant et en tournant et en voyant les épisodes à la fin. Mais effectivement, ça c'est très difficile à estimer, mais on essaie de laisser quand même une grande liberté aux auteurs de dire ce qu'ils veulent, ça c'est le plus important. Nous on n'écrit pas. La relecture c'est plus des petits détails de est-ce que ça se sera bien compris, est-ce que c'est le bon argument, est-ce que tu es sûr que cette illustration elle sera suffisamment pertinente, est-ce que ça a été validé par le relecteur. Voilà, c'est pas de tout mélanger ou de dire non, là tu dis ça, il faut pas dire ça comme ça ou il faut pas dire ça. Le cas où ça a été peut-être le plus dur sur la dernière, c'était quand même avec Hygiène Mentale, qui peut annoncer des trucs très, très cash en fait dans ses vidéos, mais tout est méga, méga sourcé et backup 2000 fois parce que c'est Christophe, quoi. Et donc, il a dû un peu plus défendre ses mots, en fait, en disant « Bah oui, mais ma source, elle est là, ma source, elle est là, ma source, elle est là. » Mais vu qu'il avait raison, bah tout est passé.
Ah, c'est étonnant. Du coup, en parlant un petit peu des vidéastes, comment ils sont choisis, je crois savoir de sources de type Christophe Michel que c'est toi qui l'avais contacté.
Ouais. En général, c'est moi qui crée les teams, ouais. Parce que j'ai la chance de pas mal connaître les gens, de connaître le game, comme on dit. Ce qui fait que je sais avec qui j'ai envie de travailler, déjà. Je sais qui a envie de travailler avec qui. Ça, c'est sûrement l'idéal. Mmh. Et c'est ça qui marche. C'est-à-dire que je sais qu'ils ont des affinités. Je sais que, même s'ils ne se connaissent pas, moi, je les connais. Et je me dis, oh, vous deux, là, vous allez bien vous entendre. Je pense que vous, là, ça va être sympa. Même si, parce que Christophe, par exemple, c'est pas quelqu'un du tout qui fait des collabs d'habitude. Mais connaissant un peu Christophe, je me suis dit avec Patrick, Manon et Léa, ça devrait bien se passer. Vraiment, c'est des gens que je sais très bienveillants, très, très à l'écoute, très cool, qui ont envie de faire les choses bien et qui ça a bien se passer. Christophe, je savais que ce serait comme ça, mais c'était celui que je connaissais le moins, parce que comme je le dis, c'est pas celui qui fait le plus de... qui est le plus visible en fait, en convention, ce genre de choses, c'est pas son délire. Alors que Manon, j'avais déjà travaillé avec elle, on se connaissait bien. Que Léa, je l'ai rencontrée au festival Frame, et c'est Manon, je crois d'ailleurs, qui m'a dit « Oh, tu devrais parler à Léa, c'est elle qui fait la chaîne du CNRS de Zeste de Science », et j'ai discuté avec elle une ou deux heures, et je fais « Ah non, mais c'est trop bien, quoi ». Et en plus, c'est elle qui m'a directement filé le plan pour que le CNRS finance le Vortex. Et puis Patrick, je crois qu'on a beaucoup parlé de la Mega Drive et dans le bus et on a beaucoup rigolé et je lui ai parlé du Vortex, il m'a dit ah moi je suis chaud, c'est rigolo, j'en ai marre un peu d'être tout seul, ça a l'air vraiment sympa, dis-moi quand c'est et je vois si je peux quoi. Mais voilà, après le truc c'est de faire écrire, c'est de trouver les plannings, de faire rentrer tout ça un petit peu au forceps dans les plannings de chacun, ça peut être aussi la difficulté. Mais bon, ça, voilà, parce que c'est vrai qu'on a un tournage quand même de 9 jours, donc qui est long. Pour eux, de bloquer 9 jours d'affilée, comme ça, c'est pas évident. Mais voilà, on s'en sort. Et puis, je pense que vraiment, là, ils ont tous eu une très bonne expérience, tous ceux qui sont venus la dernière fois, qui sont contents et qu'à chaque fois, ils ont hâte de voir les épisodes sortir, donc ça fait plaisir. Et voilà. Mais ouais, non, mais c'est vraiment bien marré cette semaine de tournage, c'était épuisant. C'était quand même épuisant, mais je pense qu'on a bien rigolé. Je pense que ça se ressent dans les épisodes. Que voilà, il y a une vraie. Et puis par exemple pour Christophe. Christophe, c'est vraiment pas un comédien. Il a pas de formation d'acteur. C'est pas du tout son délire. Mais je pense qu'il a fait vraiment des super efforts pour bien jouer la fiction. Et il m'a épaté là-dessus. Et en même temps, la mise en scène, c'est pas son délire non plus. Donc on l'a beaucoup aidé à écrire ses mises en scène. À comment est-ce qu'il allait faire ses petites phases de fiction au début et à la fin de ses épisodes. Et tout le monde a participé, en fait, en disant « Ah ouais !» Et tout le monde en lui disant « Alors comment tu voudrais mettre ça ? Ok, on réfléchit. » Et il y a des moments, je crois qu'il y a une intro, on en a eu 3 ou 4 des idées, quoi. Et finalement, c'est celle qu'il y aura dans l'épisode qui va être diffusée, c'est dans la deuxième de Christophe. Mais ouais, on a fait une petite intro qui change un petit peu d'habitude. Justement parce que c'était marrant.
J'étais très étonné de voir le CNRS financer des vidéos sur internet.
Pourquoi ?
Parce que j'ai l'impression que à part Zeste de Science où c'est un petit peu c'est eux qui ont mis leur aval dessus, je les voyais mal faire des coproductions quoi. J'avoue que j'étais assez étonné.
Alors il faut en fait beaucoup de coproductions CNRS Images, mais surtout du documentaire. Je pense qu'on est la première chaîne YouTube effectivement qui est en partenariat avec le CNRS Images.
Ok.
Mais c'était nouveau pour eux, mais c'était pas inenvisageable, si tu veux. Ouais.
Sûr qu'avec la chaîne Zeste de Science, ils avaient déjà un petit peu les idées pour faire les codes du web.
Voilà, ils commençaient à avoir cette expérience-là. Ils commençaient aussi à... Je pense qu'ils ont vu l'intérêt du Vortex, en fait. Pour eux, d'avoir le bac Arte, CNC, de voir ce que NES produisait, je pense que ça... On était le bon partenaire au bon moment, au bon endroit. C'est un peu de la chance, on va dire.
Ouais. Ouais, ça a été un bon timing à ce moment-là.
C'est ça, exactement.
Je pense qu'on va bientôt finir. Il me reste 3 petites questions que je vais poser de manière assez récurrente dans tous les épisodes. Déjà, simplement, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ?
Oh bah pour la suite, que le Vortex marche bien, quoi, que les publics soient contents. Je pense que c'est sûrement le plus important. Nous, on essaye de faire de notre mieux de notre côté et puis d'espérer que ce soit cool, qu'on fasse d'autres épisodes aussi, qu'on ait encore des sous pour en faire de nouveaux. Parce que c'est aussi le moyen de... Il faut bien comprendre que le Vortex, pour certaines chaînes, c'est aussi un bon moyen de se financer. Hein. Donc, vu que nous, on paye les gens qui viennent au Vortex, forcément, ça leur permet aussi de professionnaliser leur activité, quoi. Ça, c'est vraiment sympa. Mais voilà, donc j'espère que ça continuera pour continuer de faire découvrir des chaînes, faire découvrir des youtubeurs et youtubeuses. Parce que s'il y a bien un message qu'on essaie de faire passer, c'est qu'il nous faut plus de filles dans la vulgarisation. Ça, nous, on a vraiment cette volonté et obligation d'avoir autant de filles que de garçons et de mettre en avant cet aspect-là en disant, regardez, quand même, c'est important. Mais c'est pas facile, on va pas se le cacher. Donc j'espère que ça aussi, ça bougera un petit peu les lignes au fur et à mesure. Mais
Bah, on croise les doigts pour une potentielle colloque 3 et colloque 4.
Exactement.
On croise les doigts très très fort, parce que j'aime beaucoup le Vortex.
Merci.
Je trouve que c'est vraiment très très chouette. Simplement, est-ce que tu as des conseils pour les gens, et surtout, j'y compris, je pense, les femmes qui voudraient se lancer dans la vulgarisation, est-ce que tu as des conseils peut-être sur la méthode à utiliser, ou sur peut-être certaines peurs ou certaines craintes? Est-ce que tu as des conseils maintenant que tu connais bien le milieu et que...
C'est vaste hein, comme question, sans m'étendre pendant des heures. Je pense qu'il faut oublier que vous êtes une femme et au pire, faites des voix off. Tu vois. Ça, déjà, ça peut être juste des voix off. Traitez bien vos sujets, faites des trucs que vous aimez et au début, on s'en fout. Amusez-vous, faites ce que vous avez envie de faire. Plantez-vous, ratez, recommencez, c'est pas grave. Vous n'êtes pas là pour sortir les meilleures vidéos du monde instantanément. Il faut bien comprendre ça. Essayez, testez, vérifiez, utilisez l'outil, utilisez YouTube, apprenez à monter, apprenez plein de trucs et vous frustrez pas de pas faire les vidéos que vous souhaiteriez faire, on va dire. Ça, je pense que c'est vraiment important de bien comprendre qu'on n'est pas instantanément un génie de la vidéo ou de la vulgarisation, vraiment. Regardez les vidéos de toutes les premières vidéos de tout le monde, que ce soit de Nota Bene, de Linguisticae, même de Léo, c'est moins bien. C'est moins bien que ce qu'ils font maintenant et c'est normal. Donc, n'hésitez pas vraiment à... Moi, je dis toujours, l'important, c'est de produire. L'important, c'est de faire des trucs. On verra après et t'apprendras. Moi, je marche beaucoup comme ça par essai-erreur. Voilà. Et puis, tu progresses. Et puis, voilà, si ça plaît aux gens, eh ben, on continue. Et voilà. Mais voilà, y a pas... En fait, c'est pas plus pour les filles ou les garçons. Je dirais les mêmes choses pour les deux. Et n'ayez pas peur de vous lancer si vous avez envie de le faire. Mais faites gaffe, c'est du temps et c'est du travail, c'est pas facile. Et faites gaffe au son. Le son, c'est trop négligé. Voilà.
Eh bien, écoute, merci beaucoup.
Je t'en prie.
Pour avoir partagé presque une heure d'entretien avec moi sans trop savoir ce qui allait se passer.
Bon, pas de souci.
T'avais simplement... j'ai lancé un appel comme ça, sans trop de... Sans trop y croire, mais t'as été hyper réactif et là-dessus, je te remercie.
Je t'en prie.
Est-ce que tu aimerais voir quelqu'un qui raconte un petit peu les coulisses de ses productions dans la vulgarisation, un mec, une fille, peut-être qu'un appel à lancer comme ça que je puisse l'avoir dans mon filet.
Ah, tu veux que j'appelle quelqu'un à participer à l'émission, c'est ça?
Si tu veux. Si tu veux pas, il n'y a pas de souci. Mais si tu as envie que quelqu'un raconte un peu les coulisses, même si je pense que tu dois connaître quand même pas mal certains coulisses, vu que tu es un peu dans le game, hein, comme on a dit tout à l'heure. Si tu as envie de voir quelqu'un se prêter au jeu.
Quelqu'un que j'aimerais bien voir se prêter au jeu. Je cherche quelqu'un que je ne connaîtrais pas trop, tu vois. Que j'ai envie d'avoir des informations parce que je ne le connais pas assez. Ou je ne la connais pas assez. Bon, qui est toujours marrante et qui a des choses à dire. Je pense qu'il y a Manon qui serait toujours très cool. Mais si éventuellement, quelqu'un que j'aime bien et qui n'est peut-être pas assez mise en avant, c'est Valentine de Science de Comptoir.
Elle était prévue, j'avais très envie de la contacter.
Voilà, je pense que Valentine, ça peut être marrant. Je pense que Marie Wilde, ça peut être marrant. Je pense que voilà, c'est des gens que je connais un peu moins, on va dire, tu vois, que je côtoie moins et qui ça m'intéresserait d'avoir des petits bails dessus, quoi.
Et ben on va essayer d'avoir ça alors.
Super.
Et ben encore une fois merci beaucoup et puis bonne continuation pour la suite.
Merci.
Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça veut dire que cela vous a un tant soit peu intéressé, et c'est tout ce que j'espérais. Encore une fois, merci à Ronan de bien avoir voulu discuter avec moi. Si vous souhaitez découvrir mes autres podcasts, il y en a trois. Signature, un podcast hebdomadaire où l'on parle d'objets et de leur histoire dans une petite chronique de 3 minutes. Première page, une mise en son des premières pages de la littérature. Et enfin, l'Agora, le podcast où l'on traite du monde de l'Antiquité grecque au travers de sujets actuels. A très bientôt, je l'espère. Prenez soin de vous. Ciao.